Mise au point. Le magazine des politiques publiques.
Bonjour à vous. Nous sommes ravis de vous accueillir au sein du laboratoire d'apprentissage du CNFPT dans le cadre de ces universités de l'innovation publique territoriale. Pour faire face à la crise climatique, sociale, migratoire que connaît notre monde aujourd'hui, le territoire semble se présenter comme l'avenir, si ce n'est de l'homme, car je ne voudrais pas offusquer Louis Aragon, tout du moins de l'humanité. Les acteurs que vous êtes, responsables territoriaux notamment, du développement des territoires, ne manquez pas de vous questionner sur les raisons de cette opportunité et les conditions qui feront réellement de ces territoires de véritables terrains de vie où il fera bon vivre. Nous aborderons ces questions avec Monique Castillo, Santa Meyer-Nandi et Bruno Latour, qui nous a accueillis à son domicile. Bruno Latour est philosophe et sociologue des sciences, anthropologue, universitaire, il a notamment été directeur adjoint de Sciences Po. Écoutons-le.
Tout le monde sent bien que la question territoriale remonte, en quelque sorte. Donc c'est ça que j'appelle où atterrir. Là. On était assez détaché des conditions matérielles, disons. Curieusement, le développement économique était assez peu matérialiste et se préoccupait assez peu de l'endroit où on allait véritablement s'installer, disons. Donc on est un peu comme dans un avion, si vous voulez, c'est une métaphore que j'utilise de temps en temps, qui était parti du monde ancien, du territoire qu'on laissait derrière soi. Généralement la campagne, c'est le grand mouvement d'abandon de la campagne, disons. Et on allait vers la globalisation, et puis on nous a expliqué, en cours de route, le capitaine nous a expliqué que c'était fini, parce que la globalisation ne permet pas de vivre à l'échelle de la planète. Il nous en faudrait 5 ou 6 planètes pour pouvoir vivre au niveau qu'on avait prévu. Et c'est là où la fonction territoriale, au sens large du terme, joue un rôle crucial, parce qu'il va falloir réarticuler le territoire au sens administratif et le territoire au sens de terrain de vie vécu, dont la définition a changé. Parce qu'à partir du moment où on se met à vivre et à définir le territoire sur lequel les gens vivent, c'est les gens qui doivent le faire, cette définition du territoire. C'est pas l'administration. Depuis le 18e siècle, on s'est habitué, nous les Européens, et nous les Français en particulier, à vivre dans un monde qui nous donne le cadre juridique, le cadre géographique, l'organisation spatiale et les droits, et les devoirs aussi. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Mais il y a un autre monde dont on vit, qui est celui bien connu dans le cas des colonies, mais aussi de façon plus large, le monde dont on vit, c'est aussi le charbon, le pétrole, etc., la terre, le sol, etc. Et ces deux mondes coïncident de moins en moins, disons. C'est un peu une question à la Star Trek, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont dans un vaisseau spatial et qui se disent, est-ce que l'endroit sur lequel la planète que nous voyons en face de nous est habitable? Pour ça, il n'y a pas d'autre solution. Il faut y aller et il faut enquêter. Et cette enquête, c'est pas simplement les astronautes de Star Trek, c'est les citoyens eux-mêmes. Un territoire se définit par ceux qui sont vraiment sur place et qui disent de quoi nous dépendons. Donc dès qu'on pose une question, quel est votre territoire en termes d'identité, on a un type de réponse généralement assez banal, en termes de terroir ou de parfois ethnique. Et dès qu'on pose la question en termes d'attachement, on a une autre réponse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, nous ne pouvons pas sauter l'étape de définition des territoires en termes d'attachement. Je crois que la première chose, c'est de ressentir ou d'aider à ressentir le décalage entre le cadre administratif qui, par définition, repose sur une définition du territoire qui, en gros, permet de quadriller l'espace géographique, mais dont on sent, dès qu'on prend une affaire quelconque, que ce soit la question des haies ou la question de l'intervention sur la biodiversité ou des questions de développement des transports locaux ou de l'installation des banques de proximité, etc., que rien ne colle bien. En gros, c'est ça la question. Est-ce que c'est de la consultation ou est-ce que c'est de l'autodescription? Si c'est de la consultation, on dit oui, moi, en tant qu'agent territorial, j'ai une responsabilité de consulter. Mais le problème, ce qu'on obtient par la consultation, c'est généralement la réponse à des questions que l'administration pose. Or, maintenant, on sent bien que tous ces régimes, toutes ces façons de faire de la consultation ou du débat public sont biaisés. D'ailleurs, les gens ne s'y trompent pas, ils disent toujours, mais c'est de l'enfumage, c'est l'expression. Pourquoi? Mais parce qu'on n'a jamais demandé aux gens de définir eux-mêmes les problèmes. Donc, c'est dur pour les agents territoriaux, je l'imagine, de recevoir toutes ces injonctions contradictoires, moderniser, mais démoderniser, relocaliser, mais en même temps, n'oubliez pas le niveau de l'État, etc. C'est un cauchemar d'être un agent territorial en ce moment, mais c'est une chance formidable en même temps, puisque la question territoriale revient sous des formes anthropologiques capitales.
Monique Castillo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, spécialiste de l'œuvre de Kant notamment. Vos travaux portent aujourd'hui sur l'éthique, sur la philosophie morale et politique. Universitaire, vous avez enseigné à l'université de Poitiers et de Créteil. Dans le prolongement de Kant, vous pensez admirablement bien la question de l'autonomie dans le cadre de l'évolution de nos démocraties. Vous tenez toujours avec justesse la tradition philosophique et les enjeux de notre monde contemporain. Chanta Meyer, Nandi. Vous êtes allemande, vous avez fait des études en droit de l'environnement européen en Angleterre, notamment, et vous habitez aujourd'hui à Paris. Vous incarnez donc le cosmopolitisme dans toute sa dimension généreuse qui est si chère à nos universités de l'innovation publique. Vous êtes également conférencière, coach, consultante à Paris et en Allemagne. Vous avez fondé un blog qui a été élu meilleur blog du développement durable en Allemagne. Vous intervenez donc dans le champ de l'environnement durable avec passion et pragmatisme, et votre personne et votre influence portée par une démarche qui nous semble très efficace nous donne envie de vous suivre et de changer nos comportements en matière notamment d'éco-citoyenneté. Nous vous remercions également de nous faire partager votre expérience. Bruno Latour propose quelques hypothèses face aux conséquences de l'évolution du régime climatique, notamment la nécessité de s'appuyer sur les territoires, mais des territoires qu'il nomme des terrains de vie, pour développer un système d'engendrement plutôt que de production. Qu'en pensez-vous l'une et l'autre? Chanta Meyer, comment vous percevez justement ce rapport au territoire, comment vous êtes en relation justement avec ce territoire qui pourrait être un terrain de vie?
Je vais commencer par parler comment je me sentis avant mes défis. J'ai eu une vie qui était bien, mais j'ai cherché tous dehors. J'ai cherché les plaisirs d'aventure dehors. Et ça veut dire j'ai pris l'avion pour la relaxation, pour l'aventure. J'ai mangé de plats exotiques pour avoir une sens de quelque chose d'intéressant. Et j'ai cherché beaucoup dehors. Et je pense que c'est aussi un symptôme de notre société qu'on crée des vies qui sont très stressantes, très vite. Et on cherche toutes les choses qui nous associent avec le bonheur dehors. Et maintenant, après plusieurs années de défis de moi-même, j'ai vraiment compris qu'il faut, c'est très bien pour moi, si j'ai créé une vie où j'ai assez de temps pour tout ce qui est important pour moi, c'est très individuel. Ça veut dire un peu d'aventure, un peu de repos et aussi un travail qui me donne du sens. Ça, c'est important, mais en même temps que je ne travaille si beaucoup pour après financer toutes ces aventures dehors. Maintenant, je peux vraiment investir mon argent, mon temps, mon énergie beaucoup plus efficacement pour mon bonheur, pour ma qualité de vie, pour la qualité d'une heure.
Donc, Chanta Meyer, Nandi, vous êtes bien en résonance avec le propos de Bruno Latour, dans la mesure où il parle de terrain de vie, et vous cherchez à incarner votre rapport au territoire dans quelque chose qui est très existentiel, en fait.
Oui, et les démarches commencent par les questions de connaissance de moi-même. Parce que je trouve que nous, ça inclut moi-même avant, on cherche beaucoup, on trouve des besoins, mais on les traduit dans une façon très standard. On est influencé par l'avertissement, mais aussi par, en regardant les médias sociaux, est-ce qu'on dit ça en français? Social media, le Facebook, on voit les vies très exigeantes des autres et on a l'impression qu'il faut pour d'être heureuse d'avoir tout ça.
Alors, nous allons en quelque sorte croiser vos deux visions, hein, l'une qui est peut-être plus philosophique et l'autre plus pragmatique, mais vous le verrez, toutes les deux sont portées par des cœurs intelligents. Monique Castillo, comment vous percevez les propos de Bruno Latour? En quoi ça fait résonance avec voilà tout ce que vous avez pu développer sur notamment le rapport, j'ai envie de dire, à la démocratie notamment et au territoire?
Alors Bruno Latour propose une nouvelle définition du territoire, un nouveau rôle, une réorganisation mentale de la pensée du territoire en lien avec ce qu'il appelle la désorientation qui existe entre le mondial et le local. Et moi, je parlerai de désarroi entre le mondial et le local. Trois exemples. En Suisse, récemment, les femmes ont fait une journée suisse de la revendication. Mes petits-enfants sont dans une crèche et tout le monde a fait la revendication. Or, dans cette crèche, lorsqu'une mère, sur le local, met ses enfants plus de 2 jours par semaine, elle est une mauvaise mère, parce qu'une femme reste à la maison. Donc, dans le local, on pense la femme à la maison, mais quand on pense mondial, on veut s'associer. Même chose pour beaucoup de gens en France, beaucoup sont pour le mondial, pour les migrants, parce que c'est l'ouverture, parce que il faut regarder en grand. Mais ils ne supporteraient pas que leur enfant soit dans les zones sensibles où on ne parle pas français et où on fait du cannabis. Alors, la plus grave forme de désarroi qu'on observe dans la jeunesse, c'est le double sens qui est donné à la jeunesse du mot esprit critique. Et c'est essentiel aujourd'hui, comme vous le savez. D'un côté, l'esprit critique, c'est la capacité de se donner de l'autonomie de jugement, d'essayer d'avoir de l'objectivité, de penser universellement comme font les mathématiciens, comme font les scientifiques, de rentrer dans une république des idées. Mais depuis 30 ans, on enseigne dans les écoles que cette culture universaliste, elle est colonialiste, elle est polluante, elle est insupportable. Donc les jeunes hésitent entre « je me ressource » ou « je me dénigre ». Est-ce que vous voyez, si vous voulez, si on ne prend pas cette mesure de la perturbation des esprits, on ne peut pas, je crois, comprendre pourquoi on peut redonner au territoire et la manière dont le fait Bruno Latour, c'est qu'il dit voilà, le territoire est géopolitiquement pertinent parce qu'il évite d'un côté l'abstraction mondialiste de la finance et des élites qui ne parlent qu'anglais et qui ne se rencontrent que dans les avions, et d'un autre côté la tentation de repli nationaliste identitaire. Donc le territoire devrait être effectivement un lieu de vie parce que il pourrait supporter ce qu'on n'autorise plus de supporter à la nation. L'enracinement, l'histoire, le vécu, la proximité, et en même temps accepter une dynamique qui soit une dynamique ouverte. D'où cette tentation de retrouver effectivement un territoire qui soit pensé de façon différente. Mon idée, c'est que ça correspond très bien à l'Allemagne, parce que les Allemands sont déjà organisés en Länder, ils aiment les villes moyennes, ils aiment les régions qui ont des personnalités. Il y a des régions pour la finance, il y a des régions pour le ski. Chez les Français, il faudrait un travail de mentalité bien supérieur, parce que chez les Français, le territoire reste la France. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, oui, cette perspective est ouverte, il faut la prendre, mais ça nécessitera un petit peu d'éducation.
Oui, parce que en fait, la mondialisation a plus introduit de l'individualisme que de l'universalisme.
Voilà, un universalisme mondialisé, un individualisme mondialisé, un individualisme de masse.
Et qui n'est pas critique. Hein, c'est
voilà, et qui a cessé d'être critique, ou plutôt, si vous voulez, le problème de cette critique de soi, la civilisation occidentale est mauvaise, c'est que les jeunes risquent de tomber dans le cynisme et dans un relativisme, si vous voulez, nihiliste. Vous voyez, peu importe, il suffit d'avoir raison ou de faire un peu de fake news. Vous voyez, voilà, je crois que si on n'associe pas la question des territoires au changement de civilisation que nous vivons aujourd'hui, on risque de manquer une étape.
Alors, on ressent bien un sentiment d'impuissance hein, face à, effectivement, aux effets de la mondialisation. Donc vous, Chantal Meyer-Nandy, qui êtes une citoyenne active, engagée, qui développait effectivement une stratégie d'influence, qui visait effectivement à véritablement construire une démarche pour transformer les choses au plus près du territoire. Voilà, comment on peut lutter pour vous contre cette impuissance? Qu'est-ce qu'on peut faire?
J'aimerais bien de réverser cette question.
Ouais.
Et ça vient, comme j'ai dit avant, d'une empowerment. C'est, je pense, quand on est contre quelque chose, ça nous empêche. Et j'aimerais bien de réverser cette question et dire, comment est-ce que je peux vraiment d'être bien en moi-même et en société? Et il y a, j'ai trouvé dans mon recherche, dans mon démarche, il y a plusieurs liens entre le bien-être individu, le vrai bien-être, quand on pense on a bien, et la durabilité. Par exemple, si je mange local et bien, c'est bien pour ma santé, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour le système de santé, ou si je prends les vélos, c'est moins pollution, c'est bien pour ma santé, c'est bien pour mon état mental. Il y a plusieurs effets comme ça qui aident à la durabilité, mais plutôt indirectement. Mon intention, ça commence avec moi-même. Comment je peux être vraiment bien? Et après, ça va aussi aider l'état de notre environnement et aussi de notre communauté. Parce qu'on est vraiment en essentiel, on s'écoute. Et je pense, comme société occidentale, on a perdu cette sens d'essentiel de soi-même. Comme j'ai dit avant, on cherche beaucoup dehors. Mmh. Et quand on voit ces liens qui arrivent à une plus grande bien-être, on se sent puissante. Et on voit comment ça se sent bien quand on vit là, comme ça.
Donc le pouvoir d'agir, hein, qu'il ouais. s'agit de mettre en œuvre à cette impuissance,
oui.
Pour vous, il s'appuie sur le questionnement sur ses propres besoins les plus essentiels, être au oui. plus près de soi-même. C'est ça votre
oui.
votre enjeu.
Et en tendresse avec soi-même et aussi avec les services publics, parce que on est formé dans notre école, à l'université, dans notre carrière, d'être le meilleur. Ça commence avec le concours et c'est commencer sans une approche de perfectionnisme. Et ça donne beaucoup de se dire, OK, je vais réduire mes trajets en avion, ou je vais réduire la viande sans dire, OK, 100% autrement, la monde va finir. Et quand on est plus doux, on arrive beaucoup plus loin. Parce que peur... particulièrement avec des habitudes et un grand blocage.
Votre enjeu, quand vous parlez de tendresse, c'est être respectueux de soi-même aussi, c'est
oui,
ça que vous entendez?
Oui, la générosité, parce que quand je travaille avec mes clientes ou des entreprises, il y a beaucoup de peur de changement. Mm-hmm. Et quand on commence avec des défis de 30 jours, ça, c'est plutôt une joue. Et après, des habitudes restent. On a cette bouteille en métal automatiquement et en même temps, on dépense moins d'argent pour l'eau. Il y a de petites choses comme ça qui ne sont pas un grand changement pour nous, mais quand même, en effet, c'est très bien pour le monde.
Donc, favoriser la méthode des petits pas, hein, dans
oui,
une dimension plus pragmatique.
Et de ne pas dire, je dois faire tout en même temps. Et j'aime bien ça dans notre défi, parce que c'est spécialisé sur une chose, qui se touche avec les défis prochains, mais quand même, on n'a pas cette peur que je ne peux pas réussir ça, c'est trop. Comment je vais faire ça dans ma vie? Je suis occupée, je suis jeune maman, comment je peux le faire? Et quand on est plutôt focusé sur une chose, ça donne beaucoup.
Alors, Madame Castillo, voilà, vous questionnez souvent aussi la tentation de la centration sur sa propre satisfaction singulière, qui est pas forcément pour vous la méthode la plus adaptée. Comment vous réagissez à cette approche qui consiste à se dire, je vais tendre avec moi-même, je vais être au plus près de mes propres besoins, je vais m'écouter pour agir et pour reconstruire quelque chose dans une perspective qui dépasse aussi mon propre intérêt. Comment vous réagissez à ça?
Lorsque vous parlez d'impuissance, c'est plutôt un phénomène collectif.
Ouais.
C'est un phénomène collectif, ce que soulignait Bruno Latour en disant que quand l'écologie devient un problème international, elle est impuissante. C'était cette idée. Alors, je voudrais oser une hypothèse critiquable, puisqu'une hypothèse est une hypothèse. Il me semble qu'une grande part de notre impuissance, à la fois de citoyens et d'élus locaux, vient du fait que la défense de l'écologie s'est faite par une stratégie qui est la stratégie de la peur.
Ouais.
On avait peur, et il fallait faire peur. Et on appelait ça l'heuristique de la peur. Simplement, l'un des pères fondateurs de l'écologie profonde, Hans Jonas, à mon avis, quand je dis à mon avis, c'est par modestie, ça veut dire que c'est quelque chose de critiquable. C'est simplement une perspective. À mon avis, il a eu tort d'opposer le principe responsabilité au principe espérance. Parce que je crois qu'il n'y a pas de responsabilité qui ne mène à de l'espérance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va le dire autrement, mais c'est la même chose. Il a confondu également responsabilité et culpabilité. Et ce n'est pas en culpabilisant. Prenez un enfant, si vous le culpabilisez tout le temps, eh bien, il ne sera jamais responsable. Il cherchera un maître qui lui donnera des ordres et il deviendra conformiste, lâche et veule. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? La peur, la peur est insuffisante. Nous avons besoin de foi dans l'avenir. Nous avons besoin de retrouver de l'élan, de retrouver de l'énergie. Et pour moi, vous avez dit que j'étais kantienne, et ben là voilà, la kantienne, le véritable humanisme européen, je considère l'ex-Union soviétique et les États-Unis comme des enfants de l'Europe, hein, ils en sont sortis, mais la naissance c'est l'Europe, la véritable humanisme, qu'est-ce que c'est? Et vous le retrouvez chez Benjamin Constant, chez Schiller, et chez Rousseau bien évidemment, c'est le fait que l'humanité est perfectible. Elle est perfectible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle n'est rien d'autre que ce qu'elle crée d'elle-même. Même ses talents, il faut qu'elle les invente. Regardez un bébé, vous avez des petits-enfants, moi j'ai des petits. Eh bien, un bébé, quand il est sur le dos, il est obligé d'inventer de se mettre sur le ventre. On peut pas lui apprendre, faut qu'il le trouve tout seul.
Ouais.
Vous comprenez ce que je veux dire? Il est obligé d'inventer comment fonctionnent ses muscles, comment il va pouvoir apprendre à marcher. Voilà. Eh bien, l'humanité, c'est pareil. L'humanité est le fruit de sa propre inventivité. Et ça, c'est exaltant. C'est exaltant pourquoi? Parce que ça signifie qu'il existe une solidarité humaine de l'humanité, pas des individus, mais une solidarité de l'humanité. Personne ne détient la clé de la fin de l'histoire parce que cette fin n'existe pas. Alors, on peut se suicider, bien évidemment. Suicide nucléaire, c'est possible. Mais chacun invente, les autres bénéficient. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Nous dépendons de l'autre et donc nous avons une solidarité intergénérationnelle parce que ce que nous inventons, c'est pour nous les générations d'après qui elles-mêmes vont devoir inventer face aux nouveaux problèmes. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'exaltant. Si je traduis ce thème kantien en vocabulaire contemporain, je dirais que dans l'innovation, nous avons besoin de plus en plus qu'elle soit sensée, dotée de sens, créatrice de sens.
Alors, j'imagine, Chantal Meyer-Nandy, que les propos de Monique Castillo sur la nécessité de créativité, d'innovation, fait écho pour vous dans votre propre pratique et la démarche que vous développez.
Absolument, et c'est la chose qui nous empêche pour agir comme ça, c'est la peur d'échec. Et dans notre société, on a mis une grande peur d'échec. Déjà, à l'école, je vois avec ma petite fille de 7 ans, elle a déjà peur d'écrire la date incorrectement. Il y a tout ça qui instille un empêchement de la créativité. Et quand, comme une société, on arrive à dire bienvenue à l'échec, on va essayer, on va perdre tout ce perfectionnisme, on va beaucoup plus loin.
Comment vous avez lutté contre cette peur de l'échec auprès de vos étudiants, Madame Castillo?
Ah, il n'y a qu'une façon, c'est la confiance, c'est-à-dire que c'est trouver les ressources. Ils sont des ressources. Toute vitalité humaine est une ressource. Et une fois qu'ils ont compris que ce qui est critiqué dans ce que je fais, c'est simplement la superficie de ce qu'ils ont fait, mais qu'ils peuvent alimenter. Et donc, quand ils comprennent que la culture est nourriture, ça part et c'est merveilleux, parce qu'ils vous dépassent.
Vous êtes en plein dans l'apprenance, justement, à ce moment-là.
Ça commence beaucoup avec la confiance en soi-même. Moi, par exemple, je suis ici avec un français qui n'est pas parfait, mais j'ai cette confiance que je suis dans une cercle bienveillante et que je peux exprimer mon sujet aussi avec un français qui n'est pas parfait.
Tout à fait. Alors, justement, comment développer le pouvoir d'agir des acteurs qui sont sur les territoires, qui sont engagés dans la transformation des territoires, et notamment les agents des collectivités que vous êtes, afin de favoriser cette renaissance démocratique dont vous parlez, Madame Castillo, au sein de ces territoires de vie, et donc le développement de démarches innovantes telles que vous proposez aussi, Shanta Meyer-Nandi. Comment pensez-vous que, justement, sur les territoires, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, pourraient, justement, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en œuvre? Comment, qu'est-ce que vous auriez envie de leur proposer comme, si ce n'est conseil, invitation?
Écoutez, c'est la chance, enfin, de passer de l'innovation destructrice à l'innovation créatrice. Vous le savez, l'économiste Schumpeter a parlé de destruction créatrice. Ça signifie tout simplement, alors ça fait partie de notre philosophie du changement. Le changement, qu'est-ce que c'est? C'est remplacer le vieux par du nouveau. Donc, exit le vieux. iPhone 8, exit l'iPhone 5. Ça, c'est de l'innovation simplement technique, si vous voulez. D'accord? C'est de l'innovation technique. L'innovation technique élimine, le train élimine la calèche. Nous avons besoin, et je crois que les territoires sont peut-être le lieu où on peut le tenter. En tout cas, je l'ai vu en Tunisie. Je vais vous parler d'un exemple tunisien qui m'a bouleversé. De l'innovation créatrice. Alors, par exemple, je parle de l'iPhone 8, l'iPhone 5. Lorsque on invente l'alphabet braille, on fait une innovation créatrice. C'est-à-dire qu'on crée une fonction qui n'existait pas. On ne remplace pas une fonction qui existait déjà. Vous voyez bien toute la différence. Eh bien, l'innovation créatrice dans les régions, pour moi, c'est ça. Ça veut dire, alors c'est tout un esprit, c'est une nouvelle mentalité. Et je vais prendre cet exemple que j'ai découvert à Tunis. À Tunis, j'ai vu, dans les alentours de Tunis, bien sûr, un directeur de hara, qui est très riche, qui a beaucoup de chevaux, qui fait des courses, qui gagne sa vie avec ses chevaux. Et il s'est aperçu que beaucoup de jeunes Tunisiens, parce qu'ils étaient chômeurs, devenaient djihadistes. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a réhabilité les métiers du cuir à l'ancienne, il leur a appris à faire du cheval, il leur a appris à se montrer en acrobatie, et il fait ce que j'appelle une innovation créatrice. En quoi c'est une révolution mentale? Au lieu de voir dans le chômage, ça c'est les Français, un obstacle, ils n'ont pas travaillé, il y a plein de chômeurs, ils voient une opportunité. C'est ça l'esprit pionnier, l'esprit bâtisseur. Vous prenez un type, il arrive dans une clairière. Oh ben il dit, je peux rien faire, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ben, il y a l'autre qui va, lui, l'esprit bâtisseur, il va dire, mais formidable, je vais pouvoir tout faire. Est-ce que vous comprenez cette idée? Et ça, pour moi, ça peut être l'esprit génial qui alimente les territoires, c'est-à-dire, puisque on n'a pas ça, eh ben on va l'inventer. Mmh. Voilà, c'est cette idée-là.
Se reconnecter avec l'élan vital, finalement.
Se reconnecter avec l'élan vital.
Shanta Meyer, voilà, vous êtes, qui êtes une innovatrice, en quelque sorte, sur le plan, voilà, aussi individuel. Comment, voilà, qu'est-ce que vous auriez à mettre, j'ai envie de dire, en partage, avec des responsables, effectivement, d'organisations territoriales qui sont, eux, confrontés à des individus, mais aussi à des collectifs, pour justement faire en sorte que ces territoires deviennent des terrains de vie?
J'aimerais bien dire, soyons confiantes, soyons curieuses. Et c'est important que on se ne sent pas comme les professeurs qui disent à des gens d'implémenter certaines actions, mais de commencer par soi-même. Et pour ça, c'est important d'avoir l'entraînement aussi, pour d'avoir aussi le savoir-faire et comment de motiver la public pour agir comme ça. Et il faut une révolution aussi dans le service public, parce que là, il manque aussi le savoir-faire, et c'est la même chose avec nos individus. C'est un manque de cette pente entre savoir, entre sagesse et entre comment traduire ça en action.
Quelque chose qui est de l'ordre du don aussi.
Oui, et quand on voit comment décrire cette pente, et aussi comment de montrer qu'on va se sentir mieux avec ça. On peut vraiment être en interaction avec la public, entre le service public et la public, et créer des liens et des interactions beaucoup plus grandes qu'on peut d'être seul.
Alors, Bruno Latour a fait décoller cette table ronde vers les affres de la mondialisation en nous enjoignant d'atterrir au plus près des territoires. Nous vous remercions vivement, Monique Castillo et Chanta Meyer-Nandy, d'avoir participé à sécuriser notre atterrissage dans les meilleures conditions possibles afin de nous inciter sur nos territoires à tout mettre en œuvre pour qu'ils deviennent des terrains de vie favorisant l'autonomie, le pouvoir d'agir, la puissance d'exister des individus et des collectifs qui travaillent et qui les habitent. Merci à vous.
Mise au point. Le magazine des politiques publiques.